Bonjour à tous, ici Laurie Michaud et bienvenue à Management 101, balado propulsé par Koboom, cabinet conseil en management. Chaque semaine, je m'entretiens avec ma collègue Catherine Dubé, copropriétaire chez Koboom, pour adresser un des 16 domaines du modèle intégrateur du management développé par notre cabinet. Notre but, vous donner des outils pour mieux gérer. Ah, les processus, un mot qui fait friser les oreilles de plusieurs personnes. Ayant parfois une connotation de bureaucratie, les processus permettent pourtant que tout le monde soit au courant des mêmes choses, que les tâches soient réalisées de manière uniforme et cohérente, et surtout, permettent de sauver des quantités astronomiques de temps au quotidien ou lors de la formation de nouveaux employés. Ceux qui nous écoutent chaque semaine sauront que dans notre processus, c'est le moment où j'appelle Catherine pour qu'on commence notre discussion. Allô Catherine!
Allô Laurie!
Cette semaine, on va parler de processus. C'était pour nous la suite logique, en fait, des deux épisodes d'avant, là, le pouvoir et l'information. Pourquoi c'était logique de parler de processus ensuite?
Bien, une fois qu'on a parlé de l'information, souvent l'information, une des façons de documenter, outre que des checklists puis une base de connaissances, il y a tout l'aspect d'avoir nos processus documentés. Puis derrière tout processus, il y a beaucoup d'informations clés dans une entreprise. Sans processus, il manque souvent la fameuse recette de l'entreprise.
Là, on va vraiment le décortiquer un peu de façon scolaire, là, point par point. Je voulais commencer par faire la distinction entre processus et procédure, parce que des fois, c'est mélangé. Donc, c'est quoi un processus?
Processus, c'est un ensemble d'étapes où il y a de la transformation d'informations, de matière ou de la transformation humaine. OK? Donc, par exemple, là, c'est pour ça que je le dis humaine, mais dans les hôpitaux, il y a des processus où qu'on transforme ni de la matière ni de l'information, mais que c'est l'humain qui est transformé. Là, tu sais, une opération, une prise de sang, etc. Et voilà. Donc, il y a une transformation. Donc, un processus, c'est vraiment un ensemble d'étapes.
Je pense que l'élément clé à retenir, c'est vraiment qu'il y a plusieurs parties prenantes dans un processus. La majorité des processus. Tandis qu'une procédure...
C'est souvent l'inverse. C'est souvent une partie prenante, donc une personne qui la réalise. Des fois, deux, là, ça peut arriver, exemple, une personne qui vient contrôler une étape. Mais c'est vraiment, exemple, je suis en train de faire une tâche, puis là, il y a des étapes, des petites étapes micro, là, que procédure, ça dure pas 8 jours, là, tu sais, ça se compte en minutes, une procédure, le temps de l'effectuer, souvent.
Il n'y a pas d'échéancier qui se met là-dessus, c'est quelque chose que tu fais une fois.
Tu sais, tu passes au travers, t'es pas censé comme interrompre au fur et à mesure ta procédure, tandis qu'un processus, c'est vraiment, il y a des moments d'interruption entre les étapes, il y a des changements de main, il y a plusieurs, c'est beaucoup plus complexe. Dans le processus, il y a des procédures pour certaines étapes.
C'est ça, c'est plus petit comme échelle.
Oui.
Et l'optimisation des processus, ça sert à quoi? Parce que pour moi, le mot processus, c'est un peu, tu sais, ça a une connotation un peu comme bureaucratique. Des fois, ça peut être perçu comme un peu lourd, mais en fait, ça sert à ce que
l'entreprise... Faut simplifier. Ça sert en fait, comme tu l'as dit, ça sert à ce que l'entreprise soit plus simple. Au final,
ça sert à ce que l'entreprise roule.
Oui. Puis les processus, c'est bon parce que c'est la fameuse recette du Big Mac. Donc, c'est quoi notre recette pour faire un Big Mac qui soit toujours de la même qualité, dans les mêmes délais, peu importe on est où dans le monde. Ça, c'est un processus qui est efficace. Processus qui n'est pas efficace, c'est qu'il varie d'une personne à une autre. Les délais sont jamais les mêmes. La qualité des extraits entre les différentes étapes, entre l'étape 3 et l'étape 4, l'extrant de l'étape 3 est pas de la même qualité, qui fait en sorte que l'extrant final de notre processus est jamais le même. Donc, ça permet de faire en sorte que tout le monde, on travaille de la même façon, puis ça enlève pas la créativité. Pour moi, la créativité devrait pas nuire à l'efficacité.
Non, c'est sûr. Puis si on résume là, l'optimisation des processus, qu'est-ce que ça fait? Ça, comme tu disais, ça améliore la qualité, ça réduit les coûts, ça optimise les services, puis ça réduit aussi les délais. C'est vraiment comme le mot, si je pense, optimisation, c'est le plus important.
Sans travailler plus fort en passant, tu sais, c'est pas... Ça, c'est super important. Les gens, quand on fait des projets, des fois, ils pensent qu'on va leur faire travailler plus fort, plus rapidement. Non, c'est juste de travailler plus intelligemment.
Et pourquoi c'est important de les documenter? Il y a plusieurs raisons.
Première raison, assez simple. Si quelqu'un se fait frapper par une voiture, on est capable de continuer.
Ouais, non, c'est vrai. On dit que c'est tout le temps pour être dépendant des processus et non des personnes qui sont dans l'entreprise.
Process dependent versus people dependent. Donc ça, c'est la raison numéro un. Deuxième raison, il y a vraiment d'assurer la qualité standard. Il y a aussi de faciliter toute l'introduction d'une nouvelle personne dans notre entreprise.
C'est ça que j'allais dire, c'est une vision aussi long terme parce que c'est pas juste pour les personnes qui sont là maintenant. Tu sais, quand on engage quelqu'un, c'est, si tout est bien cartographié, c'est beaucoup plus facile pour cette personne-là de s'intégrer, puis on perd beaucoup moins de temps aussi à lui réexpliquer des choses. Tu sais, ça, c'est pas valeur ajoutée d'expliquer à quelqu'un comment faire quelque chose.
Puis c'est un outil de référence pour les personnes des autres départements qui se posent des questions des fois sur notre département, comment ça fonctionne. Donc, c'est un outil de communication aussi, les processus.
Puis ça aide aussi à la définition des rôles et responsabilités. Tu sais, on fait un lien avec le pouvoir, mais quand c'est bien écrit qui fait les tâches à faire, bien, c'est plus facile après ça de dire qui fait quoi. Fait que ça facilite, tu sais, la définition du propriétaire puis l'attribution des responsabilités de chacun.
Exactement.
Puis aussi, ben, ça, en fait, une des premières raisons, mais ça a l'air niaiseux, là, mais faut le dire, c'est que c'est aussi mettre sur papier les processus pour que les gens les comprennent. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont même pas au courant, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Ce qui est le plus intéressant quand on fait une cartographie actuelle, c'est comme les autres font comme « Ah, c'est ça que tu fais! » Parce que des fois, on sait ce que nous, on fait, mais on ne sait pas les gens avant ni les gens après. C'est le fun, ça nous met en contexte. Quand on vit, exemple, dans un processus d'une chaîne de valeur complète, là, du besoin d'un client jusqu'à temps qu'il soit comblé, puis moi, je fais juste la planification, admettons, je suis planificatrice, puis je n'ai pas conscience de tout ce qu'il y a avant puis tout ce qu'il y a après, ben j'ai moins d'attachement pour ce que je fais versus la compréhension vraiment du global, mais ça fait que je comprends mon importance dans cette belle chaîne-là.
Et finalement, si on parle d'un côté vraiment plus opérationnel, c'est des mots très management, là, mais ça permet d'identifier les goulots d'étranglement, les répétitions et les retards. On peut peut-être faire la définition du goulot d'étranglement pour ceux qui n'auraient pas fait des cours de gestion des opérations.
Le goulot d'étranglement, c'est assez simple, c'est l'endroit où tout bloque. Donc, il y a une analogie dans le livre « Le but » de Goldratt qui donne l'analogie du goulot.
Un livre très populaire dans c'est le monde bon. Du management, oui.
Oui, c'est un roman sur la gestion des opérations. Si vous avez un livre à lire, honnêtement, c'est vraiment bon. Puis, il y a une analogie là-dedans que c'est un monsieur qui s'en va marcher dans le bois avec des scouts. Puis là, le goulot, c'est ton scout, c'est ton petit gros. Et là, sans offense à toute la grossophobie qu'il y a en ce moment... Mais le goulot, comme c'est finalement le petit gros qui a de la misère à marcher. Puis là, des fois, le goulot, des fois, il peut être au début, que là, t'as pas l'impression que personne va vite parce qu'il est en avant. Que des fois, quand il est au ventre, tu penses que t'as pas de goulot parce qu'il est au ventre. Quand il est en plein milieu, tu vois vraiment il est où le goulot parce que plus le temps passe, plus les gens qui sont en avant s'éloignent plus rapidement que le derrière. Puis quand il est en arrière, bien, c'est que le pauvre dernier, bien, il est à la fin. Puis bon, mais il se perd dans le bois au final. Donc, il ferme pas la marche d'habitude. Donc, le fameux goulot, c'est l'étape dans vos processus qui bloque.
Puis comment on fait pour... Tu sais, une fois qu'on est identifié, comment on fait pour le... Bien, en fait, il faut le déplacer.
C'est une bonne question. Il y a toujours un goulot. Peu importe. Donc, dans la théorie des contraintes, ce qu'il dit, c'est choisis où tu veux. Une fois que tu l'as identifié, garde-le à un endroit... Mais il faut que tu décides où est-ce que tu veux. Chez nous, chez Kaboom, on a décidé de le mettre, par exemple, au niveau des ventes. Parce qu'on voulait être capable de réagir rapidement, puis on utilise notre surcapacité pour faire de l'amélioration continue puis de l'innovation. Par contre, si tu le mets à ta production, dans ta production, tous ceux qui sont des manufacturiers, souvent, ils ont un goulot interne, il faut le fixer. Il faut que tu augmentes sa capacité, mais il faut que tu t'assures que le reste suive. Parce que si tu le fais augmenter puis tu ne fais pas suivre le reste, il va bouger. Et quand tu vas faire ta planification des opérations, tu ne seras jamais capable de savoir c'est quoi ta réelle capacité de tes opérations.
Fait que l'important, c'est de savoir c'est où, mais c'est impossible à éliminer. Impossible. Jamais dire jamais, là, mais en théorie, il y en a toujours un quelque part.
Oui, parce que c'est pratiquement impossible de faire en sorte que tout le monde marche à la même cadence. Mm-hmm. Admettons. On va y aller full simple. Je suis capable de faire 10 fenêtres à la fois. Puis le goulot, finalement, ça peut être, exemple, ma salle à peinture, elle en peint. À l'heure, elle fait 5 fenêtres au lieu d'en faire 10, puis toutes les opérations sont capables d'en faire 10. Donc, je pourrais augmenter ça à 8, 10. Mais là, il faut juste que je sache, moi, je conseille beaucoup à mes clients de savoir, une fois que le goulot, là, si tu augmentes trop sa capacité, il va être où? Puis t'aimes-tu mieux qu'il soit à cet autre endroit-là? Parce que, bon, la main-d'œuvre est plus facile à trouver. Tu sais, ça se peut que ça soit des décisions comme ça.
Et finalement, là après, pourquoi les documenter? Bien, comment on fait pour les documenter? Là, c'est une grosse section qu'on va faire sur la cartographie. C'est un peu dur à visualiser sans images, mais si jamais vous êtes perdu puis vous aimeriez avoir des visuels, écrivez-nous puis on va vous envoyer comme un document résumé là, des différentes choses dont on va avoir parlé pendant l'épisode.
Tout à fait.
Donc, les outils de cartographie, ça s'utilise à tous les niveaux de l'entreprise, autant au niveau stratégique, tactique qu'opérationnel. On va commencer par parler des types de processus en entreprise. Il y en a trois, donc il y a les processus de gestion, de management ou de gouvernance, il y a les processus de réalisation et les processus de support. Donc, les processus de gestion, c'est ce qui concerne le plus haut niveau stratégique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça englobe?
Ça englobe, entre autres, le processus de planification stratégique, le processus de budgétisation.
Le SNOP.
Le SNOP, oui.
Dont on a parlé dans l'épisode...
Sur la planification.
Oui, donc l'épisode 8.
Donc, le Sales and Operation Planning, qui sont des processus qui englobent plusieurs. Le marketing stratégique aussi peut être un processus global quand on revoit vraiment notre offre parce que, bon, ben, ça va avoir un impact sur plusieurs départements. Donc, les processus vraiment de gouvernance, c'est des processus qui ont lieu pas à chaque jour puis pas à chaque semaine. C'est souvent des processus sur une base trimestrielle ou annuelle, mais qui se répètent dans le temps.
C'est aussi les processus qui sont un peu gardiens du modèle d'affaires, finalement.
Exactement.
Ensuite, les processus de réalisation, ça, c'est ceux qui sont reliés au cœur des activités. Puis ça va un peu devenir les deux prochains niveaux, là, le tactique et le opérationnel. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait comme quotidiennement, comme produit ou comme service.
On est en construction, on livre des maisons. On est en manufacturier, on fabrique des fenêtres. On est un cabinet comptable, on fait de la vérification. Un cabinet d'architecture, on fait des plans. Donc, vraiment, c'est ce processus-là qui est de la vente de notre service ou notre produit jusqu'à la livraison et la complétion de ce produit-là et service-là.
Et finalement, il y a tous les processus de support. Ça, c'est les processus qui sont destinés plus aux employés, finalement. T'sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont impacter aussi les clients externes, mais c'est tous les processus internes comme l'administration, les ressources humaines, le marketing, le département, par exemple, de TI. C'est quoi le défi avec ces processus-là?
C'est que c'est des processus qui ne sont pas en continu. Donc, tout ce qui n'est pas en continu, c'est difficile. C'est pas les mêmes outils. Justement, la cartographie, des fois, ne s'applique pas. Des fois, c'est mieux de faire des checklists parce que c'est plus simple. Quand il y a réellement un processus, exemple, un processus d'évaluation, là, ça peut être un mapping. Quand il y a un processus d'accueil d'un nouvel employé, il peut avoir un mapping, une cartographie qui se fait. Quand il y a un processus de, tu sais, les payables, les recevables, oui, il y a des processus, mais c'est qu'ils sont, ils dépendent beaucoup de d'autres ressources que d'eux-mêmes. Donc, c'est pas un processus qui roule en continu. C'est ça qui est difficile. C'est un processus souvent oublié.
C'est ça, ils sont souvent oubliés, mais sont tellement nécessaires. Mais c'est toujours la dualité parce que c'est souvent vu, c'est souvent des fonctions qui sont vues comme uniquement des centres de coûts parce que c'est pas relié justement aux activités principales de l'entreprise. Mais il faut pas oublier leur nécessité.
Tout à fait.
Il y a une question qui me met en tête, est-ce qu'il y a un nombre, tu sais, comme combien de processus on devrait cartographier dans notre entreprise? C'est sûr que ça dépend de la taille, mais y a-t-il des règles générales?
C'est tellement une bonne question. Il n'y a pas de nombre. Il n'y a réellement pas de nombre. Une chose est certaine, c'est qu'il faut la cartographie principale de l'expression d'un besoin client jusqu'à la livraison. Okay? Donc, celle-là est nécessaire. Puis souvent, c'est ce qu'on appelle la fameuse chaîne de valeur. Il peut en avoir une, deux, trois. Donc, déjà là, c'est le minimum.
Puis ça va être la cartographie du niveau stratégique. C'est vraiment comme...
C'est comme stratégique-tactique. Là. Il est comme entre... est à mi-chemin
c'est
parce que...
C'est l'hybride.
Oui, c'est ouais. ça. C'est un hybride entre les deux. Parce que très stratégique, on utiliserait par exemple la chaîne de Porter qui est comme plus un schéma. Donc, on pourrait utiliser ça. Tandis que là, on va dans un niveau un peu plus de détails pour comprendre les interactions entre les différentes parties prenantes sans aller dans les rôles et responsabilités. Après, tu peux en avoir. Si ton entreprise est simple, tu vas peut-être en avoir une vingtaine. Si ton entreprise est complexe, tu vas peut-être en avoir en centaine. Au final, il faut trouver la façon de la documenter. Il faut trouver la façon que les gens vont l'utiliser.
Donc, morale, il n'y a pas de nombre. Ça dépend vraiment.
Oui, vraiment. Malheureusement, j'aurais aimé savoir un nombre. Mais non, c'est pas
simple. Mais ça dépend aussi du secteur d'activité, de la taille dans l'entreprise. Il y a trop de variables.
Tu sais, admettons, là, quelqu'un qui commande des bas, puis qui vend des bas avec des motifs, OK? Puis là, la seule chose qu'il fait, c'est vendre des bas avec des motifs sur un site web. Ça se peut que ces processus, il y en ait 20. Nous, chez nous, on en a quelques-uns, disons.
Ouais.
Parce que, bon, ben, il y a tout, juste nos processus humains, donc au niveau du développement organisationnel, on a le processus d'évaluation, on a le processus de la rémunération autonome, on a le processus des anniversaires, on a le processus des Kaboom anniversaires, on a le processus des lunch and learn. On en a comme... juste pour...
Ouais, il y en a beaucoup.
Oui. Puis, l'affaire, c'est que si on les écrit pas, puis on s'en est rendu compte dernièrement, là, tu sais, on faisait les lunch and learn, on l'avait pas mappé.
Mm-hmm.
Puis là, on était comme... c'est moi, on a déjà eu cette conversation-là.
Exact, oui, c'est ça.
Puis on perd notre temps, puis là, on a l'impression d'avoir une méga bonne idée.
Oui, mais qu'on a déjà eu il y a 2 mois.
Tu sais, c'est là que dans les processus, faut lier. Tu sais, comme exemple, dans notre processus lunch and learn, on pourrait demander la satisfaction après le lunch and learn. Puis on était comme, on s'est rendu compte qu'on avait déjà un formulaire.
Avec déjà des réponses dedans, oui. On se trouvait bien cool de vouloir demander la satisfaction client, finalement.
On y avait déjà pensé.
Ouais,
mais on l'a, tu sais, comme 6 mois plus tard, on avait oublié.
Donc, si on revient à notre fameuse cartographie, le stratégique, on en a parlé. Maintenant, le tactique, un des outils principaux, c'est une cartographie en swim lane. Là, je suis vraiment désolée, je n'ai pas trouvé vraiment de terme en français.
Corridor de nage.
C'est ça. Corridor de nage, couloir de natation. Appelez-le comme vous voulez, mais dans le... dans le vocabulaire, là, malheureusement, on utilise le mot « swim lane ». Bref, à quoi ça ressemble une carto en swim lane?
C'est assez simple. C'est les fameuses cartographies. On peut y aller avec les symboles, là, tu sais, puis on rentrera pas dans les symboles parce qu'on est dans podcast. Mais un swim lane, grosso modo, là, c'est, imaginez-vous des feuilles lignées, puis, tu sais, nos fameuses feuilles de calendrier avec des trous, là, il y avait comme la première ligne qui avait une ligne verticale.
Ouais.
C'est ça, le canevas. Puis que là, on liste dans la marge toutes les parties prenantes. Que pour chaque corridor, les fameuses parties prenantes. Que là, ça peut être le vendeur, la planificatrice, l'acheteur, le soudeur. Tout ça, expédition, blablabla. On liste ça. Puis là, ensuite, on voit les processus. L'exemple, les petits carrés, admettons, sont dans le corridor que la personne fait. Que visuellement, là, c'est comme si on avait comme... dès que ça change de main, ça change de corridor, puis là, il y a des flèches, puis là, ça devient un beau spaghetti. Pourquoi? Parce que des fois, ça remonte à une personne. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir lister les parties prenantes dans l'ordre chronologique qu'on pense, mais on se rend compte qu'il y a certaines parties prenantes qui sont impliquées à plusieurs étapes, puis ça nous permet de voir tous les changements de main, puis ça nous permet de voir qui est responsable de quoi simultanément.
Donc ça, c'est pour mapper les processus de manière très générale. Puis l'avantage principal que tu as nommé, c'est qu'on voit les changements de main entre les différents départements. Puis après ça, c'est sûr qu'on peut aller faire des swim lanes plus détaillés dans chaque département, mais ça, on va rester dans un niveau quand même général de détail.
Oui.
Puis ensuite, quand on tombe dans le opérationnel, puis là, je pense que c'est là qu'il y en a le plus de cartographie à faire, c'est des diagrammes de flux fonctionnels qu'on utilise. Ça, c'est sûr, vous en avez déjà vu. Là, souvent, il y a des... c'est fait avec des ovales, des carrés, puis c'est tout relié aussi. Mais souvent,
oui,
il y a
non.
peu...
Tu sais, comme ouais, exemple, le losange, c'est comme qu'il y a une décision à prendre, oui, non, puis là, après, le chemin continue.
Ça fait un chemin différent. Dans les flowcharts aussi, c'est aussi son nom qu'on utilise souvent dans le vocabulaire, il y a pas ou peu de changements de main. Fait que là, c'est vraiment plus pour une seule personne.
Puis là, c'est là que quand il y a plein de changements de main, un flowchart peut venir mélangeant. On peut venir indiquer les gens. Puis là, c'est là de trouver le bon détail. C'est quoi le bon outil? Est-ce que c'est un swim lane? C'est un flowchart? Ou est-ce que des fois, on a même déjà vu la combinaison des deux? Faut juste s'assurer que tout le monde comprenne. C'est important.
C'est ça. Puis le but de ça, du flowchart, c'est de documenter le comment des activités sous forme de tâches et de décisions. Fait que là, avant, on était dans le processus, là, on tombe dans les tâches. Puis le comment, en fait, c'est rarement enseigné aux employés quand ils rentrent. On peut même, tu sais, vraiment se rendre dans le micro-détail, là, et on peut descendre jusque dans les instructions de travail. Ce serait comme le dernier niveau qui est aussi lié au niveau opérationnel, mais qui ne serait pas dans le diagramme.
Corrige-moi si je me trompe. Non, on n'utiliserait pas... les instructions de travail, souvent, ils vont être à part des checklists, puis tout ça, les fameuses... Nous, on utilise beaucoup le TWI. Training Within Industry pour les documenter, ces fameuses instructions de travail. Mais ça vient s'appuyer. Tu sais, exemple, les fameuses règles de gestion, toute cette information-là.
C'est comme le niveau le plus précis des processus, si on veut.
On commence pas par là. C'est la dernière étape.
Non. Puis c'est ça, en fait, souvent, les employés sont comme formés sur le tas, comme on dit. Puis les tâches que les gens font, ils ont souvent pas été analysés au fil du temps, fait que c'est, sont rarement optimales, en fait.
Exactement. Puis là, c'est là que des fois, il y a des... Quand on fait le processus, on se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Puis là, t'es comme, pourquoi tu fais ça? Puis là, tu te rends compte. Moi, j'ai déjà vu... J'étais comme, pourquoi tu fais ça comme juste aux 3 jours? Puis t'es comme, ben moi, j'aime ça faire ça le mercredi. Ah!
OK.
OK. Donc, la personne faisait ses achats le mercredi parce qu'elle aimait faire ça le mercredi. Que là, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose un jeudi, ben là, ça allait attendre
au mercredi d'après.
Oui.
Mm-hmm.
Que là, il y a plein de petites choses. Quand tu fais tes processus, que tu poses des questions... Moi, j'aime beaucoup quand on fait les processus, puis que ce soit en flowchart qu'en swimlane, c'est de poser vraiment la question, c'est quoi le délai entre les étapes? C'est quoi la durée de l'étape? C'est quoi la valeur ajoutée qu'elle amène cette étape-là? Parce que là, tu viens de... Si tu fais juste mapper, tu penses comme « Ah, oh, c'est chill! » Mais quand tu commences à questionner les délais, la durée, là, tu vas faire « Oh! Ça te prend ça, faire ça! » Puis là, tu te rends compte de tout le potentiel que tu peux gagner derrière ça.
Justement, tu as parlé de valeur ajoutée. Fait que je voulais juste introduire... En fait, je sais plus si on en a parlé dans un autre épisode, mais je penserais pas introduire le concept de... d'activité à valeur ajoutée versus à non-valeur ajoutée.
Activité à non-valeur ajoutée, c'est pas que personne travaille, OK? Il faut vraiment comprendre, parce qu'à chaque fois qu'on parle de non-valeur ajoutée avec des employés, on pense qu'ils travaillent pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'activités à non-valeur ajoutée d'un point de vue client.
Des activités, c'est pas de la faute des employés.
C'est ça. Et les activités à valeur ajoutée, c'est ce qui amène de la valeur au client. Le client me paye pour quoi? Je donne un exemple. Il y a seulement 3 domaines dans le manufacturier que le client paie réellement pour les contrôles qualité. Il y a l'aéronautique, pharmaceutique, alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on aime savoir ce qu'on mange, que les médicaments qu'on prend sont sécuritaires, puis que quand on vole, ben ça se crasse pas. Ça, on est prêt à payer, puis on paye réellement le coût comme consommateur de, tu sais, on le sait, les médicaments, là, l'original versus le...
Le générique.
Le générique, il y a une différence de prix immense et aussi une différence au niveau du contrôle qualité. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est une activité à valeur ajoutée d'un point de vue client quand tu payes. Il y a plein d'entreprises qui font, ils ont des contrôleurs qualité, mais que le client ne paye pas de surplus pour ça. Donc, c'est un coût pour l'entreprise. Ce n'est pas une source de revenus. Et c'est là que c'est intéressant. Tu sais, comme en ce moment, nous, notre podcast, on est dans une activité à non-valeur ajoutée.
Oui.
Ça veut pas dire que c'est pas important pour autant, mais il faut le savoir, puis il faut diminuer les activités à non-valeur ajoutée. On pourrait pas faire ça toute notre journée.
Non.
Puis on dit qu'une entreprise de classe mondiale, c'est que ses activités à valeur ajoutée représentent 33 % du temps. Donc, tu sais,
on... C'est ça, fait que c'est pas 100 % là, impossible.
Non, c'est impossible. Puis ce qui est dramatique, c'est que tout le monde chiale sur les hôpitaux au Québec. Les hôpitaux ont environ une moyenne de 3 % de taux de valeur ajoutée. Puis la moyenne au Québec est entre 2 et 5 pour les entreprises privées.
OK.
Donc, il y en a plein qui disent comme quoi que leur ratio de valeur ajoutée, il est bon. Mais quand tu fais le chemin, là, parce que tu sais, dans les non-valeur ajoutée, il y a tous les délais entre deux personnes. Parce qu'il faut, pour calculer notre ratio de valeur ajoutée, c'est que tu regardes ton temps de passage, c'est-à-dire entre le moment que j'ai un besoin client puis le moment où c'est clôturé le mandat, c'est quoi les délais? Puis là, c'est ta valeur ajoutée sur tous ces délais-là, puis là, on se rend compte qu'il y a bien de la non-valeur ajoutée.
Ça compte au complet le temps entre les deux, la première puis la dernière étape.
Les heures ouvrables, on s'entend.
Oui. On va pas compter la nuit.
Qu'il faut maximiser... Puis tu sais, comme ce que je trouve triste, puis on va en parler un peu plus dans le numérique, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'accélérer la valeur ajoutée, tu sais, qui vont mettre des technologies pour accélérer, automatiser ce qui est déjà à valeur ajoutée, puis qui mettent même pas de temps à diminuer leur non-valeur ajoutée, qui sont les contrôles, les déplacements, le stockage. Il enlève même pas ça, puis il essaie d'automatiser ce qui va qui ajoute déjà de la valeur.
Donc, un des concepts clés, autant dans cette définition-là, là, de valeur ajoutée à non-valeur ajoutée, mais qui aussi, je pense, ça s'applique pour tous les processus, c'est qu'il faut toujours garder en tête c'est quoi finalement le besoin du client, c'est quoi qu'il a demandé. Puis, tu sais, pas juste améliorer pour améliorer dans le vide, là, entre guillemets, tu sais.
Puis, c'est là qu'on aime beaucoup l'approche centrée sur l'humain, human-centric, quand on fait beaucoup de recherches sur les processus. C'est que les processus doivent être centrés à ce que ça soit agréable pour le client et l'employé. Simultanément. Ça, c'est important.
C'est les fameuses expériences client et expériences employée.
Oui, puis quand on fait la cartographie, on va même des fois venir évaluer « Ah, notre client, il sent comment là-dedans? » Mais notre employé sent comment aussi dans ce long processus ardu? Faut se poser les deux questions.
Puis finalement, j'ai toujours un peu la même question à chaque semaine, mais mettons que j'ai une entreprise puis qu'il n'y a rien de cartographié, je sais pas trop c'est quoi mes processus, par où je commence?
Tu commences par appeler Kaboom.
Première étape.
Première étape, appelle Kaboom. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, faire ça tout seul quand t'en as jamais fait puis t'en as pas, c'est quand même fastidieux. Moi, je suggère d'être accompagné pour les premiers. Et le premier processus, c'est vraiment le processus au cœur de l'entreprise. Donc, vraiment marcher le parcours client chez vous. Donc, marcher, comme j'arrête pas de le dire, la fameuse swim lane, là, de l'expression du besoin client jusqu'à temps qu'il soit comblé. Tu cartographies celui-là, ça va être déjà la première étape. Puis après, ce qu'on va faire, c'est d'identifier les zones rouges, les zones à risque qui sont moins documentées, qui sont floues. Puis là, de venir exploser ça vraiment en flowchart. Puis là, même en procédure, si nécessaire.
Donc finalement, c'est ça, appliqué au boom. On oui. voulait rien d'autre dire.
C'est ça, appelez.
On n'a rien d'autre à dire. ça serait tout.
On est rendu à l'aise dans nos épisodes quand on leur dit appelez.
On est vraiment. Je suis rendue genre écrasée. Fait que c'est tout?
Oui, c'est tout. On pourrait aller dans le numérique la prochaine fois.
Ouais?
Ben oui.
OK. Parfait. De toute façon, il n'en reste pas tant que ça. Des sujets, on les a presque tous passés. Il va rester le numérique, la participation et la structure. Fait que ça, ce sera deux domaines organisationnels qu'on va garder pour la fin.
Mais le numérique est intéressant parce que il faut avoir des processus pour se numériser. Donc, c'est comme la suite logique.
Fait qu'en fait, les quatre épisodes, là, incluant celui-ci, les deux derniers et le prochain, sont comme un peu tous interreliés.
Vivement le modèle intégrateur.
En fait, le modèle intégrateur, c'est comme une toile d'araignée, mais il y en a quand même qui vont plus ensemble.
Tout à fait.
Donc, c'est sur cette plug marketing subtile qu'on va vous laisser aujourd'hui pour l'épisode 14 de Management 101 sur les processus. On reste disponible sur nos réseaux sociaux pour répondre à vos questions, vos préoccupations ou si vous avez envie d'outils visuels pour illustrer ce que nous venons de vous expliquer aujourd'hui. Comme je l'ai dit tantôt, on pourrait vous fournir un petit document. Donc, c'est au kaboom.co sur Facebook, LinkedIn et Instagram ou à notre adresse courriel au info@kaboom.co. On se voit la semaine prochaine?
Yes, à la semaine prochaine!